Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Saint Jérôme,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous en sommes toujours dans l'exégèse de Saint Matthieu, chapitre 3, au verset 7. Donc, sur le polycopier, nous en sommes à la page 21, en haut de la page. Alors, on va voir si on peut peut-être même terminer le... Non, je n'en doute pas, on n'arrive pas à terminer le chapitre 3. On va quand même bien avancer en chapitre 3. Donc, je vous rappelle que c'est important pour les gens qui veulent travailler le cours d'exégèse. Donc il faut à la fois, au moins dans la semaine qui suit le cours, qui précède le cours, comme vous voulez, relire le passage de l'Écriture sainte. C'est relire donc, le début du chapitre 3 de Saint Matthieu. Et puis aussi relire le polycopier. Hein. Ce sont des cours qui exigent un peu plus de travail qu'un simple cours de catéchisme qu'on connaît déjà en grande partie. Seulement le travail personnel d'exégèse est toujours demandé plus de travail, et pour celui qui donne le cours, et pour celui qui suit le cours. Au séminaire, on rappelle qu'on travaille des cours d'exégèse, ça demandait il faut bien travailler les auteurs après, les pères de l'Église surtout. Hein. Enfin, c'est des choses qu'on a peu eu le temps d'étudier au séminaire, je regrette beaucoup de ne pas avoir eu le temps d'étudier tout ça au séminaire. Je l'ai étudié après. Donc je vous donne un peu un résumé de ce que disent les pères. Pourquoi c'est tellement important? Je vous l'ai déjà dit au début de ce cours, parce que c'est certainement par les pères de l'Église qu'on obtient l'esprit d'Église. Penser comme l'Église a toujours pensé. Penser comme l'Église a toujours pensé. Il faut... Vous avez dans les exercices Saint-Ignace, il y a des règles pour penser, sentir comme l'Église, pour penser avec l'Église. On n'a jamais le temps d'expliquer aux 5 jours de Saint-Ignace qu'on a passé le temps. Mais ceux qui ont les livres bleus, vous pouvez les lire aussi, c'est très intéressant parce que justement ça explique l'importance de, si vous voulez, lorsqu'on étudie l'exégèse de l'Écriture sainte, il faut se dire, je mets mon opinion personnelle dans la poche, le mouchoir par-dessus. C'est vraiment ça. Lorsque le pape Saint Pédis a condamné les mois derniers, donc il a exigé de tous les sous-diacres, tous les diacres, tous les prêtres, tous les évêques, tous les professeurs de... professeur de séminaire, professeur d'université catholique, un serment qu'on appelle le serment antimoderniste. Et dans ce serment antimoderniste, et dans la profession de foi même, je vais lire le texte, Léonard. Même dans la profession de foi qui est exigée par l'Église à tous les enseignants, dans le corps religieux, dans le corps professoral des universités catholiques, eh bien, l'Église demande à ce qu'on pense comme l'Église a toujours pensé, surtout dans le domaine de l'interprétation de l'Écriture sainte. Je vais vous lire le texte. Le texte, en fait, c'est dans la profession de foi, qui est la profession de foi du Concile de Trente et de Vatican I. On trouve aussi la même chose dans le serment antimodernisme, mais c'est plus simple dans la profession de foi. Cette profession de foi, moi, je l'exige à la fin de chaque retraite, celle qu'on fait en fin de retraite, devant le Saint-Sacrement, vous vous rappelez. Et donc, voilà ce qu'il est dit, c'est intéressant. J'admets et j'embrasse avec une ferme conviction les traditions apostoliques et ecclésiastiques, comme aussi les coutumes et les constitutions de cette même Église. J'admets de même la Sainte Écriture selon le sens qu'a reconnu et que reconnaît la Sainte Église, notre mère à qui il appartient de juger du vrai sens de l'interprétation des Saintes Écritures. Et jamais je ne la recevrai et ne l'interpréterai dans le sens unanime des Pères. Il insiste, quand il dit le Concile de Trente, insiste donc beaucoup là-dessus, avec raison, pour penser tel que l'Église a toujours pensé. Et ainsi on se protège. Et vous avez à peu près le même texte, avec une certaine modification, parce que c'est un peu plus philosophique, dans le serment antimoderniste, donc qui date du pape, qui vient du pape Saint-Pédiste, qui remonte à 1910. Et on voit la même idée, exactement la même idée. Je reçois sincèrement la doctrine de la foi que les pères orthodoxes nous ont transmise des apôtres. Toujours dans le même sens et la même interprétation. C'est pourquoi je rejette absolument la supposition hérétique de l'évolution des dogmes d'après lesquels ces dogmes changeraient de sens pour en recevoir un différent de celui que leur a donné tout d'abord l'Église. Et pareillement, je réprouve toute erreur qui consiste à substituer au dépôt divin confié à l'épouse de Christ et à sa garde vigilante une fiction philosophique ou une création de la conscience humaine, laquelle, formée peu à peu par l'amour, l'effort des hommes, serait susceptible dans l'avenir d'un progrès indéfini. Vous voyez, donc ça, je pense que l'exégèse est très importante à cause de ça. Donc, donner aux fidèles, et pour nous, comme aux prêtres, bien sûr, d'abord, le sens de l'Église. Sentirait comme l'Église, sentir tel que l'Église a toujours pensé. L'Église a toujours pensé qu'il fallait aller à droite à tel niveau. Moi, personnellement, j'aurais préféré aller tout droit. L'Église m'a toujours dit, pendant 20 siècles, qu'il faut là, il faut aller à droite. Eh bien, je vais à droite. J'oublie mon opinion personnelle sur le sujet, je vais à droite, et là, je suis protégé. Et on le voit très bien dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II. Comment, les premières choses qu'ils ont faites après avec Vatican II, c'est couper justement les fidèles de la protection de l'histoire de l'Église, la protection des siècles et des siècles de théologie dogmatique. Vous voyez, Saint Pédis le redit ici, donc dans un autre paragraphe, je réprouve pareillement. Dit le serment antimoderniste, je réprouve pareillement cette méthode d'étude et d'interprétation de l'Écriture sainte qui, faisant litière de la tradition de l'Église, de l'analogie de la foi et des règles du siège apostolique, s'inspire des méthodes de travail des rationalistes, des protestants en fait, et avec autant d'audace que de témérité, n'accepte comme suprême et unique règle que la critique textuelle. Et en outre, je rejette l'opinion de ceux qui prétendent que, dans l'exposition des questions historiques et théologiques, mais c'est aussi vrai dans les questions, évidemment, de l'exégèse, le savant ou quiconque s'occupe de ces matières doit d'abord se débarrasser de toutes les idées préconçues, soit au sujet de l'assistance divinement promise pour la conservation perpétuelle de chaque point de vérité révélé, pour interpréter ensuite les écrits de chaque père, en dehors de toute autorité sacrée. D'après les seuls principes de la science, avec cette indépendance de jugement que l'on a coutume d'apporter dans l'étude d'un document profane quelconque. Vous voyez, on voit très bien que la vertu principale que l'Église demande à toute personne qui étudie l'exégèse, surtout, c'est l'humilité. L'humilité. Et c'est le piège dans lequel sont tombés pratiquement tous les exégètes modernes. Tous les modernistes sont tombés dans ce piège. On veut du nouveau. On veut des choses nouvelles. L'Église, pendant des siècles et des siècles, a interprété ça ainsi, mais moi je veux quelque chose de nouveau, donc j'interprète de façon différente. C'est ce qu'on appelle l'école de Tübingen. L'école de Tübingen, c'est une école allemande rationaliste qui a été à la base du protestantisme, enfin, qui a servi de base à l'interprétation protestante de l'Écriture sainte. Et donc, voyez, à la fin, je réinsiste sur ce texte. Ces textes sont peu connus et c'est très dommage. Vous voyez ce que dit Saint Pédis à la fin de sa déclaration antimoderniste. Est-ce que c'est ça ? De telle sorte, dit-il, que la vérité absolue et immuable prêchée dès l'origine par les apôtres ne soit jamais ni crue ni entendue dans un autre sens. On fait les choses que ça a toujours été fait. Ça plaît ou ça plaît pas ? Alors évidemment, moderne. Il attrape des boutons sur le bout du nez immédiatement. Comment ? Vous ne vous rendez pas compte, aller chercher l'interprétation de l'Écriture sainte du temps de Saint-Jérôme au 4e siècle ou de Saint-Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, mais ça ne va pas, vous comprenez, en 2018, aujourd'hui on entend des ordinateurs et des fusées et des Spoutnik ou je ne sais pas trop quoi, ou des satellites, alors c'est ridicule. Mais c'est comme ça qu'ils voient les choses, oui. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi parce qu'ils se sont coupés de ce que l'Église a toujours enseigné. Oui. Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison, si vous voulez protéger votre futur, possédez le passé. Quand vous voulez connaître le futur, connaissez le passé. C'est-à-dire, vous voulez protéger le futur de votre famille religieuse, de votre famille, simplement, gardez ce qui a toujours été fait dans l'Église, et à ce moment-là, vous serez protégé. Alors, on reprend donc à la page 21, donc on est à l'explication du chapitre 3 de Saint Matthieu. Versets 3 à 10, donc les voici. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui va venir, faites donc de dignes fruits de pénitence. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu peut susciter de ses pierres des enfants à Abraham. Car déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On voit que Saint Jean-Baptiste, il parle du politiquement non correct. Hein. Quand il appelle les gens qui viennent le voir, non, qu'est-ce qu'on va faire, qu'il les appelle race de vipères, c'est assez fort. Hein. C'est bien pour montrer que, d'ailleurs, on voit ça chez tous les grands docteurs de l'Église. Hein. Ils disent, il faut lire les lettres de Saint Jérôme. Ouf. La plupart de ces lettres sont adressées contre quelqu'un. C'est contre tel hérétique, contre tel hérétique, contre tel autre hérétique, etc. Parce que justement, ils rappellent la doctrine de l'Église. Et pour eux, et ils avaient raison, pour eux, un hérétique, c'est quelqu'un qui se coupe de ce que l'Église a toujours pensé. On a toujours interprété ce texte, interprété ce texte religieux exégétique de la même façon, et vous prétendez l'interpréter de façon différente. Le simple fait, c'est en fait contre ce que disait Saint Jérôme, le simple fait que vous vouliez l'interpréter d'une façon différente montre que vous n'avez pas l'esprit de l'Église, vous n'avez pas l'esprit de l'Église, vous coupez de l'Église, vous êtes un hérétique. D'accord ? Alors, voilà ce que disent les pères sur ce texte, ce terme un peu fort, quoi. Race de vipère. En effet, page 21. Les morsures de vipère ont ce caractère, disaient les pères, ce caractère particulier que celui qui en est atteint court aussitôt chercher de l'eau, s'il n'en trouve pas, il meurt de sa blessure. Alors, il faut tout de suite préciser une chose, c'est que beaucoup des exemples que donnent les pères de l'Église, que donne aussi saint Thomas d'Aquin, des exemples à partir de la botanique, à partir de l'histoire des animaux, etc., sont c'est pas forcément, si vous voulez, l'exemple qu'ils donnent n'est pas forcément de foi, dans le sens que ça n'a rien à voir avec la foi. Bon, c'est une image qui est utilisée, et je donne par exemple un exemple, les pères de l'Église vont toujours donner comme exemple de l'amour pour le pécheur, pour ses enfants, du Christ pour ses enfants, l'amour du pélican pour ses enfants. Bon. Et ils disent, beaucoup disent, le pélican, la mère pélican, quand elle n'a plus rien à donner à manger à ses enfants, avec son bec, elle se perce le cœur, elle fait sortir le sang de son cœur pour que ses petits puissent se nourrir de son sang. Bon, c'est l'image qui est belle. Je dirais de savoir si c'est vrai biologiquement ou non, on s'en fiche complètement. Et en fait, vraisemblablement, c'est faux. Alors, ça, si on lit ça avec un esprit critique moderne, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, il raconte ça, c'est complètement idiot, il n'y a aucune preuve que ça se fasse comme ça. Mais c'est l'image qu'il faut voir, l'image qui est belle. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait parfaitement compris le niveau, si vous voulez, des gens qui l'écoutaient, qui disaient des paraboles. Des paraboles, ce n'est pas forcément des choses historiques, mais c'est des exemples simples, à partir de choses toutes simples, qui aident celui qui écoute à comprendre ce que veut dire notre Seigneur. Hein. Alors, Saint Jean les appelle race de vipères, il parle aux pharisiens, aux hypocrites, aux sadducéens. Ils appellent race de vipères parce qu'après s'être rendus coupables de fautes mortelles, ils accouraient à son baptême pour échapper par l'eau, comme des vipères au danger de mort qu'ils portaient en eux. Ils les appellent encore race de vipères parce que les vipères se déchirent en naissant le sein de leur mère, le sein de leur mère, et que les juifs, en ne cessant de persécuter les prophètes, ont aussi déchiré le sein de la synagogue de leur mère. Donc quand il accuse les juifs qui l'écoutent d'être des vipères, c'est-à-dire ils renient leur propre mère, parce que c'est une croyance, bon, encore une fois, je ne sais pas si biologiquement c'est vrai, dans la zoologie, dans la vie des animaux, les anciens pensaient que lorsque les petits sortaient du sein maternel, les petites vipères, vipérion, je ne sais pas comment dire, un petit vipéro, sortait du sein maternel, ça faisait éclater l'utérus de la mère et qui en mourait. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais là, la mère, c'est la foi de l'Église. Donc, c'est l'image d'un hérétique qui, en voulant se couper de ce que l'Église a toujours enseigné, tue sa propre mère. Voilà pourquoi il les appelle race de vipères. Hein. Alors, une autre comparaison, les vipères ont un extérieur brillant, nuancé de diverses couleurs, tandis qu'au dedans, elles sont remplies de venin. C'est ainsi qu'eux-mêmes offraient comme peinte sur leur visage toute la beauté de la vertu. Donc ça veut dire quoi, race de vipères? Ça veut dire non seulement vous êtes des hérétiques qui tuez vos propres mères, mais vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire, vous prêchez une chose et vous agissez de façon différente. Bon. C'est le propre, si vous voulez, des hérétiques qui vont soigneusement, de façon volontaire, en sachant ce qu'ils font, nier un point de la doctrine de l'Église. Alors là, il y a une très belle phrase des pères, je ne sais plus quel père elle vient, je n'ai pas toujours noté, après je le fais un peu plus dans la deuxième partie des cours, mais je n'ai pas forcément noté les auteurs, parce qu'en plus ça vient en général de différents auteurs, de différents pères de l'Église qui redisent un peu la même chose, parce que, encore une fois, les pères de l'Église ne cherchaient pas à faire des choses personnelles, je vous l'ai déjà dit, et donc ils se répétaient facilement. Donc, Saint Jérôme allait reprendre certaines choses qui avaient été écrites par des pères précédents, et d'autres pères qui suivaient Saint Jérôme allaient reprendre des pères. Par exemple, beaucoup des pères du 5e, 6e siècle ont repris des textes écrits par Origène. Origène avait une influence énorme. Bon. Et pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas du tout à avoir cet esprit de nouveauté qui caractérise l'esprit moderne. Donc voilà ce que disent les pères, ce paragraphe magnifique en deuxième paragraphe de la page 21. Celui qui n'a aucune chose défendue peut, qui n'a fait aucune chose défendue peut légitimement jouir des choses permises. Mais celui qui est tombé dans le péché doit d'autant plus retrancher ce qui lui est permis, ce qui est permis, qu'il se souvient de s'être livré plus entièrement aux choses défendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai offensé le bon Dieu dans ma vie passée par le péché, je suis obligé de faire plus pénitence que quelqu'un qui n'a pas offensé le bon Dieu. Bien que la pénitence soit nécessaire pour tout le monde à cause du péché originel. Vous la phrase de notre Seigneur, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Mais il est évident que celui qui a une vie passée, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, celui qui a une vie passée un peu de bâton de chaise, se doit de faire pénitence davantage. Au contraire, quelqu'un qui a peu offensé le bon Dieu peut éventuellement se permettre certaines facilités au niveau de la pénitence, au niveau de la nourriture, etc. Vous voyez encore une fois, il faut que notre degré d'amour à l'égard du bon Dieu correspondent au degré de faute qu'on a commis contre lui. Et c'est pareil pour la charité. Notre degré de charité, aujourd'hui, doit correspondre au nombre des fautes du passé. Je dis souvent ça quand je prêche. C'est très important de comprendre la miséricorde du bon Dieu, parce que c'est quelque chose qui est mal compris. Souvent, les gens viennent me voir affolés en préparant leur conversation générale. Ils disent, mais j'ai déjà 15 pages, je fais quoi avec ça? J'ai pas fini le troisième commandement, il paraît qu'il y en a 10. Et je vais où comme ça? Je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez accuser tous vos péchés, faire une bonne conversion générale, si vous la faites une fois, après l'année suivante, ça sera nettement plus facile parce que vous n'aurez qu'un enfer. Et vous mettez tout ça entre les mains du bon Dieu. Et comment je vais rattraper? Rattraper par l'amour. Aimer le bon Dieu. C'est ce qu'a fait sainte Marie-Madeleine, avec cette phrase magnifique de l'évangile. C'est tellement une des plus belles phrases de la miséricorde du bon Dieu pour le pécheur repentant. Qu'il a prononcé devant à l'intention de Sainte Marie-Madeleine, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Il a vu son degré d'amour, mais il pardonne. C'est pareil pour nous. Heureusement d'ailleurs, parce que si mon Dieu revenait constamment sur nos péchés passés, ce n'est pas très glorieux.
Ça peut aussi faire référence au mensonge du serpent à la Genèse.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Le vipère, le serpent en général a toujours été le symbole du démon. Toujours.
Oui, dans toutes les religions. Dans
beaucoup de religions. La religion catholique, c'est clair et net, et on le voit très bien dans toutes les imageries du Moyen-Âge, dans les gargouilles par exemple. Les gargouilles qui évacuent l'eau de pluie qui tombe sur le toit, loin des fondations de l'église pour protéger les fondations. C'est souvent des serpents. Ou des animaux fantastiques qui représentaient le démon.
D'accord. Mais justement, ça veut dire quoi sur leur symbole ou quoi?
Le symbole, si vous voulez, des gargouilles, déjà souvent on demande si vous savez pourquoi il y a des gargouilles affreuses, ces espèces de monstres, qu'on voit très bien, il n'y en a pratiquement pas dans les églises romanes, ou très peu. Mais par contre, dans les églises gothiques, il y en a énormément. Ouais. Bon, c'est tout simplement des pierres qui sont bien creusées, donc il y a une rigole d'écoulement, si vous voulez, qui va recueillir les eaux qui viennent des toits par l'intermédiaire des gouttières, donc qui vont s'amasser là, et l'eau va être jetée, au lieu de tomber au pied de l'édifice, elle va tomber 2 ou 3 mètres plus loin. Bon. Et en fait, c'est aussi une image du démon. C'est-à-dire, dans l'église, c'est la maison du bon Dieu, Donc il faut évacuer toutes les choses du monde. Donc cette eau sale qui est jetée au loin représente le péché qui est jeté loin de l'église. D'accord. Je vais éteindre mon téléphone parce que sinon ça va sonner évidemment.
Oui, c'est une objection qu'on a souvent des païens.
Oui, parce que c'est souvent des animaux fantasmagoriques, quoi. Mais c'est tout simplement, c'est une représentation du monde. C'est assez beau de voir, pour voir la grande cathédrale gothique par grosse pluie. On voit ces rideaux d'eau, littéralement, qui permettent aussi d'éviter que l'eau tombe, par exemple, à l'entrée des églises, directement sur la tête des fidèles. Vous voyez ? Donc c'est des protections, quoi, supplémentaires. Alors, ensuite, les pères se sont demandé la signification. Donc là, on a expliqué le mot vipère, race de vipère, non ? Donc la vipère, en résumé, représente le démon, représente le mal et représente l'hérétique. Là, dans le sens donné par les pères, c'est le symbole de l'hérésie. Donc qui tue sa propre mère. Alors, deuxième mot important que vont analyser les pères, c'est le mot de la hache, la cognée. Ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu peut susciter de ses pierres des enfants Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée, c'est la hache. Donc, quelle est l'interprétation de l'Église sur ce mot hache? Donc, ça, c'est le troisième paragraphe de la page 21 sur le polycopier. Donc, d'après saint Jérôme, la hache, c'est la prédication de l'Évangile. C'est-à-dire, la hache va couper les racines des hérésies, les racines des erreurs. La prédication de l'Évangile, d'après le prophète Jérémie, qui compare la parole du Seigneur à une hache qui coupe la pierre. L'image, si vous voulez, qu'ont utilisé les pères, c'est le couteau du chirurgien qui coupe la partie gangrénée du corps. Donc, ou le berger qui se rend compte qu'il a une brebis qui a une maladie contagieuse et qui va donc la retirer et la tuer s'il voit que c'est la seule solution pour protéger le troupeau. C'est ça l'image de la hache. Donc Saint Grégoire, et on retrouve tous les grands-pères de l'Église à Saint Jérôme, Saint Grégoire dit « La hache figure notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, car de même qu'elle se compose d'un manche et d'un fer, ainsi le Sauveur est un composé de la divinité de l'humanité. On peut le toucher, le tenir par son humanité, mais sa divinité est comme le fer tranchant de la hache. » C'est-à-dire que le bois, le manche de la hache représente l'humanité, et le fer tranchant va représenter la divinité. Donc on ne peut pas utiliser directement la divinité, j'ai simplement le bout terminal de la hache à partir en fer, on peut rien faire, il faut en faire avant la manche. Et donc le manche, c'est ce qui nous permet d'atteindre la divinité, c'est l'humanité.
C'est un peu comme l'épée aussi. Peut-être.
Voilà, c'est un peu le même symbole, mais là, bon, utilise le mot hache parce que c'est le mot qui est utilisé dans l'Évangile. Bon, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ prend des mots que ses écouteurs, ses auditeurs comprennent tout de suite. Tout le monde sait ce que c'était qu'une hache. Donc, c'est l'humanité, si vous voulez, est au manche, ce que la divinité est à la hache. Donc, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ va trancher dans le vif pour couper la partie gangrénée de la société, couper la partie gangrénée de l'humanité. Mais pour pouvoir utiliser ce mode de purification, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, on passe par son humanité. Parce qu'encore une fois, si notre Seigneur Jésus-Christ était arrivé directement avec sa divinité, si vous voulez, on aurait tous été complètement apeurés de cette divinité, terrorisés par la divinité, et on n'aurait rien pu faire. Donc il passe par son humanité parce que l'humanité nous fait comprendre beaucoup plus facilement la miséricorde du bon Dieu. On le voit très bien, par exemple, au sommet du Tabor. Au sommet du Tabor, notre Seigneur va se transfigurer devant Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Mais quand il voit que le visage de notre Seigneur devient comme le soleil, ses vêtements blancs comme le linge qui a été purifié, il se tellement paniqué, puis il tombe la face contre terre, il ne se plus relever. On le voit très bien. Vous voyez, ça, c'est la divinité donc qui fait paniquer complètement les fidèles, parce que c'était la croyance de l'époque, et en fait c'est vrai, que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Il fallait d'abord mourir pour voir Dieu. Et donc les apôtres, si on regarde notre Seigneur, si on regarde la divinité de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, on va mourir. Vous voyez ? Donc cette hache, disent les pères, est placée à la racine de l'arbre, car bien qu'il attende avec patience, on voit ce qu'elle doit faire, et que tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. En effet, tout homme pervers qui refuse de produire ici-bas les fruits de bonnes œuvres trouve déjà préparé pour lui le feu de l'enfer qui doit le consommer. Donc, une branche qui ne donne aucun fruit va être coupée et jetée au feu. Bon. C'est le symbole, si vous voulez, d'une âme qui refuse de changer une habitude vicieuse, si vous voulez. Eh bien, il va falloir qu'elle coupe complètement. Si elle ne coupe pas cette partie vicieuse, c'est-à-dire c'est que si elle ne veut pas enlever la partie gangrénée de son organisme spirituel, eh bien, tout l'édifice va pourrir. Et du coup, il faut envoyer tout l'édifice en enfer. C'est ce que veut dire notre Seigneur. Oui. Alors, il y a plusieurs passages de l'Évangile où notre Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la même image. Par exemple, il y a un passage qu'on verra plus loin sur notre Seigneur Jésus-Christ, le figuier. Donc, il arrive à un figuier et puis il voit que il est dans une propriété, donc il y a un figuier qui est là qui ne donne pas de fruits. Alors, le propriétaire, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, explique, bon, eh ben, puisque ce figuier prend de la place, il prend la terre et il prend du temps au jardinier, il ne donne pas de fruits, ben, coupez-le, jetez-le au feu. Et qu'est-ce que fait le jardinier? Il dit, écoutez, Seigneur, on va attendre encore un peu, j'ai creusé autour, je vais mettre de l'eau, je vais mettre du fumier, et voir un peu si on peut arriver à le faire travailler un peu ce figuier. Et puis s'il donne du fruit, tant mieux. S'il donne pas de fruit, bon, ben, on le coupera, on le jettera au feu. Ça représente la miséricorde du bon Dieu à l'égard du pécheur. Quoi. Et on retrouve souvent cette image. Encore une fois, on voit très bien que notre Seigneur reprend des images que tout le monde peut facilement comprendre. Donc, il y a d'autres images voisines. Quand là, il va parler ici de l'arbre qui ne donne pas de fruits. L'arbre qui ne donne pas de fruits, pour comprendre cette parabole, il faut la mettre en comparaison, en parallèle avec une autre parabole, la parabole des talents. C'est la même. L'arbre qui ne donne pas de fruits, c'est la personne qui a reçu des talents qui ne donne pas de résultats. Donc, une personne a reçu 10 talents, le maître part en voyage après avoir donné 10 talents, 10 mines à cette personne, il revient, il exige que ces talents aient été développés, donc il va redemander 20. Au contraire, celui qui en a reçu qu'un et qui se décourage complètement en disant « Oh, moi, je n'ai rien reçu du tout, ça ne vaut rien, je ne vois rien. » Donc, il met en terre dans un suaire et puis il attend que ça se passe. Il va rendre le talent unique qu'il a eu à son propriétaire. Eh bien, il va être condamné. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Donc, le bon Dieu demande à ce que notre arbre produise des fruits. Et notre arbre, c'est notre âme. Donc, qu'est-ce que fait le bon Dieu? Le bon Dieu va utiliser la cognée, c'est-à-dire la hache spirituelle pour couper les branches mortes. Couper les branches qui ne donnent pas de fruits, c'est pour émonder l'arbre. Hein. On retrouve les mêmes idées très souvent dans les différents évangiles à propos de la vigne. La vigne, donc il y a des serments, la vigne il faut la tailler tous les ans. Voilà, quand j'étais à Sainte-Croix-du-Mont, vous voyez, il y a des vignes abandonnées, elles ne sont plus taillées, donc pratiquement plus de raisins. Des petits grappillons, tout rikiki. Et au contraire, si la vigne est taillée, à ce moment-là, elle va donner du fruit. Et en fonction de la taille, elle donne un fruit différent. Moi, je ne connais rien, mais les vignerons expliquent que, justement, en fonction de la taille, en fonction de la façon dont les serments sont mis sur les fils de fer, eh bien, on obtient une quantité de fruit qui est différente. Une quantité de raisin qui est différente. Un pourcentage donc d'alcool qui est aussi différent. Eh bien, c'est la même chose pour nous, donc il faut comprendre que le bon Dieu nous demande de couper ce qui est pourri. Et c'est pas facile, parce que quand on coupe ce qui est pourri, il y a un sale cadeau à passer. Mais ça, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre aussi l'exemple de la lèpre. Si la lèpre n'est pas guérie immédiatement au début, tout le corps de l'individu va y passer. Hein. On retrouve beaucoup de comparaisons comme ça. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ reprend toutes ces idées-là pour nous faire comprendre la gravité du péché, en fait. Donc, la cognée qui se met à la racine de l'arbre, c'est la divinité qui châtie le pécheur qui ne veut pas se convertir. Donc, Saint Jean nous dit que la cognée, donc la hache, est appliquée à la racine de l'arbre et non pas aux branches. En effet, lorsque les enfants des méchants disparaissent, ce sont les branches de l'arbre stérile qui sont retranchées. Mais lorsque toute la famille disparaît avec le père, l'arbre infructueux, est coupé à la racine de manière que cette race dépravée ne puisse plus pousser le moindre rejeton. Et là, derrière, c'est une autre image qui revient aussi très fréquemment dans l'Évangile sous différentes formes. Et donc, cet arbre qui ne donne pas de fruits, qui sera coupé et jeté au feu, représente aussi le peuple juif qui refuse de se convertir. Donc, il y a deux parties dans le peuple juif. Il y a le peuple juif qui va se convertir, qui va... Il ne faut pas oublier que tous les premières conversions au début de l'histoire de l'Église, c'est que des juifs, hein. Je sais, mais parfois quelques païens, des centurions, par exemple centurions romains, etc. Mais la plupart d'entre eux étaient des juifs qui vont se convertir avec les premières prédications de Saint-Pierre. Et donc ces gens-là vont quitter à ce moment-là l'arbre pourri qui était bon auparavant. Il faut bien comprendre que l'arbre juif, l'arbre qui représente le peuple juif, était bon avant notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'était l'arbre du peuple élu. Mais avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, donc le peuple élu de l'Ancien Testament disparaît et Dieu demande la conversion du peuple juif pour joindre une église en quelque sorte qui est une continuation de la première qui est faite par notre Seigneur Jésus-Christ, l'église catholique. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir donner du fruit. Mais s'ils veulent rester dans l'église qui était à l'heure auparavant, qui était une église vivante avant notre Seigneur Jésus-Christ, cette église vivante, après notre Seigneur Jésus-Christ, devient une église mortifère. Pourquoi ? Parce que maintenant, actuellement, donc, ce serait un péché grave pour un catholique de suivre les rites juifs. Suivre les rites juifs. Et on voit très bien que tous les premiers convertis de l'histoire de l'Église sont tous des juifs. Il ne faut pas oublier ça. Alors, il y a un beau symbole à expliquer. Ça, je l'ai mis important, je l'ai mis en caractère gras sur le texte. On distingue quatre espèces d'arbres. Donc l'arbre complètement stérile, qui est la figure des païens, il ne donne aucun fruit. L'arbre qui porte des feuilles, mais pas de fruits. C'est l'image de l'hypocrite. Qui donne l'impression qu'il va donner du fruit. On voit des feuilles, on dit, ah, il va y avoir des fruits. Notre Seigneur Jésus-Christ s'approche et voit que derrière les feuilles, il n'y a pas de fruits. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va maudire l'arbre. Et l'arbre va dessécher. Celui qui a des feuilles, qui porte des fruits, mais des fruits vénéneux, symbole de l'hérétique. Là, c'est un peu mieux. Il y a des fruits, mais c'est encore plus dangereux que celui qui n'a pas de fruits du tout. Parce que quand il n'y a pas de fruits, on peut pas s'empoisonner parce qu'il n'y a pas de fruits. Dans des cas, c'est plus dangereux parce qu'il y a des fruits, donc on a l'impression que les fruits sont bons, et en fait, si on les prend et les consomme, on se tue, on meurt, ou on se rend malade, parce que ces fruits représentent l'hérésie. Enfin, celui qui est couvert de feuilles et produit de bons fruits, qui représente le vrai catholique. Et donc, il y a un passage, si vous voulez, d'un arbre à l'autre. Donc, la plupart des arbres, au début, étaient des arbres stériles, qui sont la figure des païens, dans le paganisme avant notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, directement, par ses apôtres, va utiliser la hache de sa divinité pour tailler l'arbre, l'émonder, émonder le sarment, le cèpe de vigne, pour qu'il puisse commencer par donner des feuilles, première étape, et ensuite des fleurs et des fruits. Et des fruits. Et ensuite, il va retailler, il y a plusieurs tailles dans la vigne, il va retailler l'arbre, retailler la vigne, pour que les fruits qu'il donne soient pas seulement des fruits, mais des bons fruits. Sinon, c'est des fruits aigres, avec lesquels on ne peut rien faire que du vinaigre et de la piquette. On voit bien les images utilisées par les pères de l'Église pour aider à comprendre tout ça. Alors, on voit dans le texte aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement il parle de la vipère, il parle de la cognée, donc de la hache, il va parler aussi des pierres. Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que Dieu peut susciter des pierres, de ces pierres des enfants à Abraham. Donc quels sont les symboles de ces pierres? Donc Saint Jean-Baptiste compare les Sadducéens et les pharisiens qui s'adressent aux pierres pour signifier à la fois leur dureté, l'obstination dans le mal, autant que pour humilier leur orgueil. Donc la pierre, la dureté de la pierre représente l'orgueil, un cœur sec qui ne peut pas se ramollir à cause qu'il n'y a pas d'humilité. C'est comme une éponge qui est sèche, qui sert pratiquement à rien. Il faut que l'éponge soit imprégnée d'eau pour qu'elle retrouve sa douceur. Et bien, c'est la même chose dans une âme. Une âme qui est sans humilité, une âme qui est gouvernée par l'orgueil, est une âme qui est comme une pierre. Et la pierre ne donne rien du tout. Rappelez-vous, là, encore une fois, d'autres paraboles qu'on peut utiliser pour expliquer ça, c'est la parabole du semeur, c'est pareil. Le grain qui tombe sur la pierre ne donne rien. Le grain qui tombe sur le chemin, il n'y en a rien de plus parce qu'il n'y a que des pierres. C'est empiré, il n'y a pas de bonne terre, il n'y a pas suffisamment d'humidité. L'humidité, c'est le symbole de l'humilité. Donc il n'y a pas d'humidité, et donc il n'y a plus que la pierre, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'orgueil. L'orgueil coupe de la grâce du bon Dieu, et personne ne se convertit.
Il y a aussi Un cœur de pierre, un cœur de chair. Non,
voilà, c'est ça. Oui, mais il y a toute une série d'idées qu'on retrouve, tout ça dans l'Écriture sainte. De transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Les phrases magnifiques des pères qui disent que la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a pour but de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Il y a des phrases magnifiques sur le sujet. Je ne sais pas si j'arriverai à les retrouver là. Il y en avait qui sont splendides. C'est marqué là, il y a une citation. Si j'arrive là. Voilà. C'est Saint Bonaventure qui disait « La passion de Jésus fait fondre d'amour les cœurs durs comme la pierre. » Vous voyez ? Cœurs durs comme la pierre. Et puis, plusieurs saints ont dit que la méditation, par exemple, du chemin de croix, Saint Albert le Grand, « Il est plus méritoire de méditer la passion avec amour que de se donner la discipline jusqu'au sang, de jeûner au pain et à l'eau pendant tous les jours de sa vie. » Et donc c'est un peu ça. Si je fais des tas de choses extraordinaires avec un cœur sec, un cœur de pierre, donc un cœur orgueilleux, ben je perds mon temps. Si au contraire, par l'humilité, Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair, à ce moment-là, il peut faire quelque chose. C'est l'image, si vous voulez, d'une éponge sèche, encore une fois, qui ne sert à rien. Au contraire. Si l'éponge est humidifiée, l'humidité qui va donner la douceur à l'éponge, qui va pouvoir être après utilisée pour nettoyer quelque chose, eh bien cette humidité qui va en quelque sorte littéralement s'incorporer à l'éponge représente encore une fois la grâce du bon Dieu. La grâce du bon Dieu est la vertu d'humilité. Donc mystiquement, au sens mystique maintenant. Quand Dieu fit sortir des pierres des enfants d'Abraham, il fit les gentils. Donc, les enfants d'Abraham, la première génération, c'est les juifs. Deuxième génération, c'est les gentils qui arrivent après. Lesquels étaient rudes et brutes, qui adoraient les bêtes et les pierres comparées à ces dernières par David. Donc, il est évident que notre Seigneur, les apôtres, les premiers apôtres, vont s'adresser à des peuplades barbares qui adoraient les pierres, littéralement. Enfin, c'était vraiment... Un degré de corruption morale absolument ahurissant. Bon, il fallait voir, par exemple, on pense à Saint Patrick qui arrive en Irlande, où on adorait les chênes, on adorait le gui, on adorait les mégalithes, les dolmens, etc. Et donc, on voit très bien que qu'est-ce que font les missionnaires, c'est tout de suite expliquer à ces gens, à ces païens, vous n'avez plus besoin de ces cérémonies parce que maintenant il y a le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par exemple, les premiers franciscains qui arrivent dans le bateau avec Cortés, donc en 1530 par là, au Mexique, et donc qui voient avec horreur la religion des Aztèques. Donc nous on n'a pas idée, en fait, c'est des choses absolument ahurissantes. Pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, excellent. Il y a 70 000 victimes humaines. Enfin, et que des jeunes, hein, que des jeunes garçons.
Mais c'est moi-là qui font des...
Oui, c'est ça, mais c'était ahurissant. Et donc, quand l'argument clé, et ça, c'est pas aux 10 000 ans avant notre Seigneur, hein, c'est au 16e siècle.
Oui, mais ça existe encore de nos jours.
Ouais, au 16e siècle en Mexique, donc 16e siècle au Mexique, à l'époque où en Europe on construisait des cathédrales, là-bas, il y avait pratiqué le sacrifice humain. Eh bien, on voit très bien qu'est-ce qu'ont dit tous les missionnaires. Ils ont compris. Ils ont dit, attention, vous adorez le soleil. Vous pensiez que le soleil, qui est votre Dieu, a besoin d'un sang frais, d'humain, des prisonniers. Donc, il fait des guerres tout le temps pour prendre des prisonniers. Quand il n'y avait pas assez de prisonniers, il prenait les leurs. Donc, ce sang a pour but, selon vous, d'abreuver le soleil. Mais vous n'avez plus besoin de ça maintenant, parce qu'il y a un autre soleil qui est arrivé, qui est bien plus grand que le premier. Et ce soleil qui est arrivé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous n'avez plus à avoir besoin du sang humain, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a répandu son sang pour nous, et que ce sang se retrouve à chaque messe dans le calice du prêtre. Et puis il y a des détails qu'on voit très bien, la grande mansuétude de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge, pour convertir ce peuple. Donc ils n'y arrivaient pas, c'est là où il y a eu l'apparition extraordinaire de Sainte Marie de Guadeloupe, donc en décembre 1531, décembre 1531, et les Aztèques adoraient la lune. Et la Sainte Vierge arrive, apparaît avec le pied sur le croissant de lune. Donc, elle écrasait la tête du démon, et en plus, elle écrasait le croissant de lune. Donc, ils ont compris, cette femme est plus puissante que notre Dieu. Vous voyez ? Eh bien, c'est ça qu'il faut maintenant arriver à reprocher, parce qu'on arrive à un degré de perversion en France. En France, on est en train de retomber pratiquement au niveau du tiers-monde, hein, pays du tiers-monde. La France, bon, quand j'étais dans les pays étrangers, quand on discutait un petit peu avec des gens qui avaient connaissaient un petit peu la politique, ils nous disaient, mais on ne considère plus la France comme un partenaire sérieux, tant sur le plan économique que sur le plan intellectuel, quoi. Pour nous, c'est un pays qui est en train de couler à fond, quoi, exactement. Et c'est un peu vrai. Mais donc, on voit très bien qu'on est en train de revenir plus ou moins à un état de décadence qui était celui des Huns, que c'est celui des barbares des premiers siècles. Quoi.
C'est le cardinal Pi, j'ai lu là, qui disait dans le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que lorsqu'on perdait la foi du christianisme, du catholicisme, d'abord, c'était la tyrannie qui arrivait au niveau de l'État. Ensuite, tout un tas de problèmes qui en arrivent à la nullité des hommes, il disait. À la nullité des hommes, mais il n'y avait plus de grands hommes.
C'est exactement ça. On dit qu'on a les chefs qu'on mérite. C'est Sabine qui disait ça. On a les chefs qu'on mérite. On voit très bien actuellement, on est en train de revenir à un niveau pratiquement du paganisme. On se retrouve dans la même situation dans laquelle étaient les premiers apôtres, les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres au 2e, 3e siècle, quand ils essayaient de convertir l'État, quoi, qui était une espèce de Moloch qui tuait tout le monde. Quoi. Alors bon, là, il faut vraiment faire confiance au bon Dieu, hein, parce que le bon Dieu a utilisé Sainte Jeanne d'Arc, il faudrait qu'il nous en renvoie, on a sérieusement besoin d'une deuxième Sainte Jeanne d'Arc. Hein. Donc, mystiquement, les pierres représentent donc le cœur sec qui s'est coupé notre Seigneur Jésus-Christ, et ce cœur sec va être un cœur de pierre, va être transformé en un cœur de chair, justement par la miséricorde du bon Dieu. Hein. Donc on va faire ce que dit le texte ici, quand Dieu fit sortir des pierres les enfants d'Abraham, il fit les gentils, lesquels étaient rudes et brutes qui adoraient les bêtes et les pierres, comparés à ces dernières par David, pour en faire les enfants d'Abraham en imitation de sa foi, de sa piété, de son obéissance, car il est le père des croyants des justes. Et on voit très bien même la difficulté qu'ont eu les premiers apôtres, les premiers disciples, pour christianiser les barbares. Hein. Ça, c'est pas fort 5 minutes. Hein. Même un Clovis, avant sa conversion, c'était pas des petits-enfants. Hein. Et il y a eu beaucoup de massacres, etc. Et c'était toute l'influence sur Clovis, c'était toute l'influence de son épouse, Sainte Blandine. Sainte Blandine, l'épouse de Clovis, et c'est Sainte Blandine qui, par sa douceur, par sa mansuétude, par sa charité, a amené son barbare de mari à finir par demander le baptême. Et puis on avait l'impression un peu que le bon Dieu l'a fait passer par des épreuves terribles. Par exemple, elle a eu un premier enfant avec Clovis, donc elle obtient le baptême, Clovis accepte, alors qu'il est encore païen, accepte que l'enfant soit baptisé, l'enfant baptisé meurt. On voyait un peu Clovis, il rentrait dans les tours, en disant, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, il est mort, l'enfant est mort parce que tu l'as baptisé, pas question, fini, terminé. Et puis, il a fallu que Dieu s'en mêle pour humilier Clovis à la bataille contre les Alamans, là, c'était Stoltebiak, je crois, et au moment où il a vu que son armée commençait à fuir, quoi. Et donc il a fait cette prière, Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien. Il a tenu parole. Vous voyez ? Et on voit tout ça, la force, si vous voyez, de ces missionnaires, mais qui devaient reprendre tout à zéro. Demain, c'est encore un très grand gaillard, là, qui est canonisé par l'Église, un grand docteur de l'Église, Saint Léon Ier, donc il y a les Huns qui arrivaient, Catilla, donc qui était un des pires barbares, une pure tribu barbare, les Huns, qui venaient de Pannonie, d'Allemagne de l'Est, équivalent à peu près, ils tuaient tout le monde, ils brûlaient tout, ils arrivent devant Rome, tout le monde panique complètement, et ils n'ont pas l'armée suffisante pour lutter contre les Huns. Alors Saint Léon, pape, tout seul, sort devant Attila qui arrive, monté sur son cheval. Il arrive avec une partie de son clergé, seul, en un vêtement apostolique, avec la mitre, la crosse et les ornements sacerdotaux, pour donner l'ordre à Attila de repartir dans son pays. Et Attila fait demi-tour. Alors, je vais voir le texte, là, j'ai oublié, parce que c'est magnifique, ça me donne vraiment confiance en la miséricorde du bon Dieu. Parce que du coup, les ministres d'Attila ont dit, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Il dit, mais derrière le pontife, là, il y avait un ange avec une grande épée de feu qui me menaçait que si je ne faisais pas demi-tour immédiatement, il me coupait en deux. Je vais retrouver le texte. Demain, c'est quel jour ? C'est le 11. Donc, ça doit être le 11 avril. Alors, s'il est là. Parce que ce texte est magnifique. Voilà. Léon Ier, pape. Naquit en Toscane, gouverna l'Église au temps où Attila, roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, envahissait l'Italie, prit la ville d'Aquilée, après un siège de 3 jours, la pilla et l'incendia. Entraîné de là vers Rome par une ardente fureur, le prince barbare se préparait déjà à faire traverser le Mincio à ses troupes, près de l'endroit où il se jette dans le Po. Lorsque le pape Léon, ému de compassion et voyant les maux qui menaçaient l'Italie, vint à sa rencontre, et par une éloquence divine, sut persuader Attila de revenir sur ses pas. Les barbares demandèrent à leur chef pourquoi, contre sa coutume, il avait montré tant de respect à ce pontife romain au point de faire tout ce qui lui avait été commandé. Il répondit qu'il avait agi par crainte d'un autre personnage revêtu d'habits sacerdotaux qui se tenait debout près du pape pendant qu'il lui parlait et qui, l'épée nue, menaçait de lui donner la mort s'il n'obéissait pas à Léon. C'est pourquoi Attila retourna en Pannonie. Il nous ferait des trucs comme ça, hein? Quelqu'un qui fasse du ciel, qui fasse vraiment peur aux pauvres gens qui nous dirigent, vous voyez. Mais c'était des grands gaillards comme ça qui avaient une foi extraordinaire, vous voyez. Eh bien, cette conversion des barbares, justement, est représentée par la pierre. La pierre, c'est la barbarie. La pierre qui se transforme en chair, c'est le barbare qui se convertit. Beaucoup de ceux, disent les pères, qui avaient un cœur dur, donc ça c'est 3 paragraphes ou 4 paragraphes avant la fin de la page 21. Beaucoup de ceux qui avaient un cœur dur, voyant les rochers se fendre, les autres miracles, et ça c'est les miracles, ils font allusion ici aux miracles qui ont lieu juste après la mort de notre Seigneur. Et les autres miracles se repentirent et crurent au Christ par les mérites de sa passion. Donc la hache, qui est la vengeance et le jugement de Dieu, est mise à la racine des arbres, c'est la vie de chaque individu. Car si ces arbres ne donnent pas de fruits, comme ce fut le cas jusqu'à aujourd'hui pour les Sadducéens et les Pharisiens, la hache va rapidement leur donner la mort en les coupant, elle les précipitera dans le feu éternel. Donc, si vous voulez, l'arbre qui pousse, ça représente l'Église. Donc, l'hérétique, c'est celui qui est coupé de l'Église. Coupé de l'Église. Donc, quand on coupe la branche morte, elle tombe et c'est fini, terminé, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut arriver à lui rendre la vie. C'est un symbole qu'on trouve chez beaucoup de pères. Une branche est morte ou est moribonde, est en train de mourir parce qu'il y a un obstacle et la sève ne peut plus monter dans la branche. Donc, qu'est-ce que va faire l'Église ? Eh bien, le missionnaire, il va essayer de déboucher en quelque sorte le canal qui devrait amener la sève qui monte pour redonner la vie à la branche. À ce moment-là, la branche va retrouver sa vie. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? La branche va, n'ayant plus de sang frais en quelque sorte pour la nourrir, plus de sève, va mourir. Et si elle meurt, elle tombe. Une fois qu'elle est tombée, c'est fini, terminé. On ne peut plus rien faire. Et donc c'est l'explication, si vous voulez, de l'hérésie qui coupe complètement du tronc de l'Église. Donc la hache va rapidement leur donner la mort, en les coupant, elle les précipitera dans le feu éternel. C'est pour ça que notre Seigneur, quand il en parle, dit bien que le bois qui sera coupé de la racine sera jeté au feu. Mais si ces arbres, au contraire, donnent du fruit et produisent repentance et bonnes œuvres, dans un peu de temps, ils seront coupés pour être transplantés dans le paradis terrestre. Dans le paradis céleste, pardon, où ils produiront toujours des fruits éternels de bonheur, de gloire et de louange. Et donc c'est la sève qui monte, qui symbolise la grâce, qui va permettre à l'arbre de se développer, et ensuite les fruits vont pouvoir être offerts au bon Dieu. Donc d'autres significations données par les pères, donc en bas de la page 21, la hache est le jugement et la vengeance du Christ, roi et juge, qui coupera non seulement les mauvais arbres dans le jardin de l'Église, mais aussi ceux qui ne produisent aucun fruit, c'est-à-dire les juifs. malgré le salut et les bénédictions promises à Abraham et à ses enfants qui seront jetés dans le feu éternel. Donc il y a deux choses qui sont là bien expliquées par les pères. D'une part, la hache va s'abattre sur les hérétiques, on a déjà expliqué, mais aussi sur les juifs qui ne veulent pas se convertir. Donc les juifs qui refusent de se convertir, eh bien, finalement, quittent l'arche du salut, qui était l'église dans laquelle les juifs étaient avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. À leur place, il plantera les gentils, donc c'est la substitution. Donc le peuple juif va être coupé de l'église parce qu'au lieu de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont crucifié le Messie. Donc ils se coupent de l'église, au moins ceux qui ne veulent pas se convertir, il y a des millions qui sont convertis, Dieu merci, mais certains refusent de se convertir, et donc ils vont être coupés à la racine, c'est-à-dire jetés au loin, et c'est les gentils qui vont prendre leur place. À leur place, il plantera les gentils, qui croient en lui dans le paradis de son église, qui représente la propriété et l'héritage d'Abraham, qui est le père de ceux qui croient. Donc Saint Jean-Baptiste menace les pharisiens et la réprobation des juifs, et commence l'appel des gentils, à leur place, qui sera très bientôt accompli par le Christ, car il rejettera les pharisiens et les juifs de la famille d'Abraham, de l'église des fidèles et en conséquence du royaume des cieux. D'accord ? Donc, on voit ici, Saint Jean-Baptiste va préparer ce changement, ce passage, si vous voulez, d'une église qui est en train de devenir une église moribonde, mortifère, qui va tuer les âmes, au passage à la nouvelle église voulue par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la continuation de l'église juive, mais cette fois-ci avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle de l'église juive, c'était d'amener le Messie, de préparer les âmes à recevoir le Messie. Donc tout le but de tous les textes de l'Ancien Testament, tous les textes des prophètes, des grands prophètes, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, etc., et bien tous ces textes préparaient le peuple des Juifs à accepter le Messie, avec tous les signes avant-coureurs. Malheureusement, lorsque le Messie est arrivé, la plupart des Juifs ont refusé le Messie, et donc ils ont tout perdu à ce moment-là. Ayant tout perdu, c'est le peuple des gentils qui va prendre la place. On trouve exactement la même idée chez les anges. Lorsqu'un tiers des anges s'est révolté, donc Lucifer et un tiers des anges se révoltent, ils crient leur nom, non de servir, mais je ne servirai pas, ils sont rejetés loin du paradis, et du coup, Dieu est obligé de créer les hommes pour que les hommes qui se sauvent prennent les places laissées libres par les anges prévaricateurs. C'est la même idée. Donc, ouais, ça c'est des belles comparaisons. C'est finalement tout simple, mais les pères de l'Église nous ouvrent quelque chose qui, une espèce de comment dire, c'est comme une toile noire qui est enlevée devant nos yeux pour nous permettre de comprendre certaines choses qui sembleraient sans aucune importance. Et là, on voit l'importance de penser comme les pères ont toujours pensé. On va commencer page 22 maintenant, donc le verset 11 et 12. « Moi, dit Saint Jean-Baptiste, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence, mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il a son van dans sa main et nettoiera son air. Il ramassera son blé dans le grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. » C'est exactement la même idée. Notre Seigneur va multiplier les comparaisons pour être sûr que les auditeurs comprennent bien. Au début, c'était l'arbre, les branches mortes qui sont coupées. Là, c'est la séparation entre la paille et le grain. Le bon grain est ramassé et mis dans le grenier. La paille, elle est jetée au feu. Cette paille qui est jetée au feu, et pour bien montrer que ce n'est pas un feu purement physique comme un feu d'ici-bas, c'est bien plus grave. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas, pour bien montrer qu'il parle de l'enfer. Alors, il est évident que là, c'est la prédication de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste prépare notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il prépare par son baptême, qu'on appelle le baptême de pénitence, il prépare le baptême d'eau. Ce n'est pas encore un baptême sacramentel. Donc, on est avant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est déjà né à l'époque, mais qui n'a pas encore commencé sa vie publique. Et donc, la prédication de Saint Jean-Baptiste prépare l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, l'arrivée du Messie.
Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste ne serait pas une comparaison avec le baptême de désir ?
Bon, c'était un sacramental, en fait. C'était un sacramental, comme l'eau bénite, comme, c'est-à-dire que c'était un signe pour augmenter la pénitence. Donc, pour tout se rapprocher devant Dieu, la première chose à faire, c'est regretter ses péchés, faire pénitence de ses péchés. Et donc, c'est le symbole du baptême de pénitence, c'est ce qu'on appelle le baptême de pénitence. Mais ce n'était pas un baptême sacramentel, parce qu'il fallait attendre notre Seigneur Jésus-Christ pour transformer le baptême de pénitence en baptême d'eau. Et ça va se faire, les pères de l'Église disent tous, on le verra un peu plus tard, que ce passage du symbole au sacrement s'est fait au moment précis où notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Pour bien montrer que toute la Sainte Trinité va à ce moment-là prendre possession quelque sorte du sacrement, donc on voit les trois personnes. On entend Dieu le Père qui parle, celui-ci mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. On voit la colombe qui représente le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ qui est baptisé dans l'eau du Jourdain. D'accord ? Alors Saint-Rémy dit, remarquons que le Christ est venu après Jean. De cinq manières, par sa naissance, par sa prédication, par son baptême, par sa mort, par sa descente aux enfers. Et c'est avec raison que Jean-Baptiste déclare que le Seigneur est plus puissant que lui, parce que Jean-Baptiste n'était qu'un homme et que le Christ était Dieu et homme tout à la fois. Donc, Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui annonce l'arrivée du Messie. C'est le dernier, on peut dire, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc, et les pères font ces comparaisons qui sont magnifiques. Je suis fort pour inviter les hommes à la pénitence. Lui, dit notre Seigneur, au contraire, est fort pour remettre les péchés. Saint Jean ne pouvait pas remettre les péchés directement, il n'était pas prêtre. Donc Saint Jean amène les hommes jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ qui lui va pouvoir pardonner les péchés. Deuxièmement, je suis fort pour prêcher le royaume des cieux, lui pour le donner. Donc il annonce quelque chose qui sera donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis fort pour baptiser dans l'eau, lui pour baptiser dans l'esprit. Donc, on pourrait dire, en posant des termes philosophiques, que Saint Jean-Baptiste fait passer de la puissance à l'acte. Il fait passer de la puissance à l'acte, rendre quelque chose qui est encore en puissance, qui va devenir acte, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ vient, en quelque sorte, faire passer cette puissance à l'acte. D'accord ? Donc, le baptême de l'Esprit est souverainement utile, car l'Esprit entrant dans l'âme l'embrasse, l'entoure comme d'un mur inexpugnable, et ne permet pas que les convoitises charnelles prévalent contre elle. Il n'empêche pas les désirs de la chair de naître dans l'âme, mais il la garde pour l'empêcher d'y consentir. Le Christ est juge aussi, il baptise donc dans le feu, c'est-à-dire dans les tentations. Celui qui n'est qu'un homme ne peut baptiser dans le feu, car celui-là seul a le pouvoir de tenter, qui est aussi puissant pour récompenser. Dieu permet les tentations, c'est ce qu'on dit dans notre Père, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Dieu permet les tentations parce que les tentations sont très souvent des tentations, non pas de séduction, ça c'est les tentations du démon, mais les tentations d'épreuve. Il y a deux types de tentations, c'est les tentations de séduction qui viennent directement du démon pour nous faire tomber, le bon Dieu n'utilise jamais ce genre de tentation, et tentations d'épreuve qui permettent au bon Dieu de voir le degré d'amour qu'on a pour lui. Mais c'est le soldat qui est un bon soldat en temps de paix et qui se retrouve en temps de guerre dans une mêlée furieuse, terrible, où on va pouvoir juger sa véritable valeur militaire. Qu'on ne peut pas juger tant qu'on est en période de paix. Il faut être en période de guerre pour voir cette valeur militaire de ce soldat. D'accord ? Donc, il y a d'autres idées expliquées par les pères. Là. Le baptême est donc de la tribulation du feu consume la chair et détruit en elle les germes de la concupiscence. Il faut bien comprendre ça, il faut bien expliquer ça aux convertis, c'est que le baptême ne supprime pas les tentations. Attention. Hein. Il n'empêche pas les désirs de la chair de naître dans l'âme. Souvent les gens me disent, vous savez, je suis baptisé, j'ai plein de tentations. Je ne vous ai jamais dit que le baptême allait éliminer toutes les tentations. Le baptême purifie l'âme, le baptême prépare l'âme à être plus forte pour se battre pour aller au ciel, mais le baptême ne va pas éliminer les tentations. D'accord ? Où est-ce que j'en suis ? Ce ne sont pas les peines spirituelles que la chair redoute, mais les peines corporelles. Ainsi, Dieu n'épargne pas à ses serviteurs les tribulations de la chair, afin qu'étant dominée par la crainte des peines qu'elle éprouve, elle cesse de désirer le mal. Voyez donc que l'esprit repousse les concupiscences et ne permet pas qu'elles soient victorieuses, tandis que le feu en consume jusqu'aux racines. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le feu du Saint-Esprit, si vous voulez, va consumer la concupiscence. Bon. Mais le baptême en tant que tel, le baptême de pénitence de Saint Jean, et même le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, va donner évidemment une certaine force en tant que sacramental pour le baptême de Saint Jean-Baptiste, en tant que sacrement pour le baptême de notre Seigneur, ce sacrement, puisque c'est un sacrement pour notre Seigneur, sacrement ne va pas détruire les tentations, attention. Il va simplement donner plus de force pour lutter contre les tentations. Et donc, c'est Saint Jean Chrysostome ensuite qui résume tout. Donc l'air dans lequel on bat le grain, ce qui se faisait à l'époque, l'air, A-I-R-E, hein. Donc c'est un air, une aire, c'est une, je crois que c'est féminin, une aire, c'est un espace sur lequel on mettait le blé, qui avait été donc le grain, avec la paille, tout mélangé, et puis on faisait, en général, on faisait tourner les ânes dessus, pour qu'avec leur sébo, ils écrasent un peu tout ça, ils séparent, ensuite ils prenaient des râteaux, ils enlevaient tout ça, ils soulevaient tout ça dans les airs, dans le vent, pour que le vent emporte la paille, et ne retombe que le grain. N'était pas très efficace, mais c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Donc, l'air, c'est l'Église, le grenier, c'est le royaume du ciel, et le champ, c'est le monde. Donc, tant qu'on est dans le champ, on est dans la tribulation. Donc, le Seigneur, en envoyant comme des moissonneurs ses apôtres et les autres prédicateurs, a retranché du monde toutes les nations et les a réunis dans l'air de son Église, parce que l'Église est représentée par l'air.
Oui, mais l'air, il parle d'une surface.
Hein, il parle de surface, oui. La surface, c'est comme une ville fortifiée. Non, dans l'air, L-A-I-R-L, apostrophe A-I-R-E, attention. Prononce pareil, mais c'est ce qui peut pareil. Donc, l'air, A-I-R-E de l'Église, c'est comme une ville fortifiée, qui est protégée par les remparts contre l'attaque de l'ennemi. Donc là, nous serons battus, vannés comme le blé. Or, tous les hommes se plaisent dans les jouissances charnelles comme le grain dans la paille. Mais le chrétien fidèle, et dont le fond du cœur est bon, à la plus légère atteinte de la tribulation, laisse là les plaisirs des sens et court se jeter dans les bras du Seigneur. Au contraire, celui dont la foi est médiocre le fait à peine sous le poids de grandes tribulations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, de même que pour obtenir le blé, il va falloir que le blé soit écrasé. C'est une autre image qu'on retrouve dans notre Seigneur, qui va dire souvent aux paysans qui y parlent, si le blé ne meurt, il ne peut pas donner du fruit. Mais là, c'est la même chose. Si l'épi de blé n'est pas trituré par le sabot des ânes qui vont tourner au-dessus de lui pendant des heures et des heures, eh bien, si ce sabot ne triture pas l'épi, il n'y aura pas la séparation entre le blé, la graine de blé et la paille. Et donc, il faut cette séparation. Et cette séparation symbolise une séparation qui doit avoir aussi lieu en nous, justement par la conversion personnelle. D'accord ? Donc, la paille, si vous voulez, c'est la partie volatile de notre âme, la partie des tentations, les concupiscences. La graine, c'est l'état de grâce. Quoi. Bon, il nous dit là, tous les hommes se plaisent dans les jouissances charnelles comme le grain dans la paille. Bon, mais le chrétien fidèle, il va laisser les plaisirs de sens pour se courir entre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que va faire notre Seigneur Jésus-Christ? Il va purifier en quelque sorte l'âme des fidèles pour qu'il y ait cette séparation entre la paille et le grain. Donc la paille, c'est les tentations du monde. Donc il faut qu'il y ait cette séparation pour que le grain soit séparé à ce moment-là, puisse être mis dans les greniers, et le grenier, c'est le symbole du royaume du ciel. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans ces parties-là. Et donc après, ils vont faire les pères vont faire une comparaison avec l'Église elle-même. Donc, pour l'infidèle, qui est absolument dénué de foi, il n'est pas encore baptisé, quelque grande que soient ses épreuves, il ne pense pas recourir à Dieu. Lorsque le grain a été battu, il est étendu sur l'air, confondu avec la paille, on a besoin de le vanner pour l'en séparer. Vanner, ça veut dire l'envoyer dans les airs pour que le vent sépare la paille du grain. C'est ainsi que dans une seule et même église, les fidèles sont confondus avec les infidèles. Or, la persécution s'élève comme un souffle violent, afin que le van du Christ, en les agitant fortement, sépare entièrement ceux qui étaient déjà séparés par leurs œuvres. Remarquez qu'il ne dit pas simplement « il nettoiera son air », mais « il la nettoiera parfaitement ». Car il faut que l'église soit éprouvée de mille manières avant d'être entièrement purifiée. Donc il n'y a pas cette séparation, cette purification, eh bien, l'âme ne peut pas s'approcher du bon Dieu. D'accord ? Bon, on va arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. C'est une des parties très riches des textes de l'Évangile. Alors aujourd'hui, on est le
10.
On est mardi. Mardi 10, c'est ça. Alors attention, mardi prochain, je ne serai pas là. Donc il n'y aura pas de cours, mais je mettrai le cours sur Internet quand je pourrai en fin de semaine. 10, 4, et moins 18. Bon, on va finir par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Jérôme, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.